Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où ils étaient, le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et il dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qu'avait annoncé Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Amen. » On connaît cette histoire. C'est peut-être une des histoires qu'on connaît le mieux de la Bible. Mais il y a une question qui a été posée par les mages et je crois que c'est une question que nous devons tous nous poser aujourd'hui. Nous ne pouvons pas passer à côté de la réponse que l'on donne à cette question. La question, c'est celle que les mages ont posée. Où est le roi des Juifs? Tous, nous devons prendre ce temps et réfléchir à quelle réponse nous allons donner à cette question. Où est le roi des Juifs? Là, dans ce texte, on voit trois personnes particulières, enfin trois groupes de personnes. La première, c'est Hérode qui va donner une certaine réponse. On va le voir dans ses attitudes. Il y a les religieux qui sont là qui vont donner une réponse aussi. Et puis, il y a les mages qui vont montrer où c'est qu'ils ont trouvé le Seigneur Jésus, dans quelles circonstances, dans quelles conditions. Et dans chacun de ces aspects-là, nous allons voir qu'il y a un enseignement du Seigneur pour chacun de nous. Quand on étudie l'histoire, alors l'histoire, pas le récit biblique, mais l'histoire et ce que nous donnent donc les historiens, on apprend qu'Hérode était quelqu'un qui était sanguinaire, qui était rusé, qui était sans scrupules, prêt à verser le sang pour arriver à ses fins, il faisait des manigances, il était cruel, tout ça, c'était l'apanage du roi Hérode. Et quand on lit ce récit, on se rend compte que c'est exactement ce que la Bible nous présente. Jésus n'était pas dans les projets du roi Hérode. La question qu'on se pose, c'est où c'est que le roi Hérode mettait le Seigneur dans sa vie? Eh bien, quand on lit cette histoire, on se rend compte que quand il a appris l'information comme quoi il y avait un roi des Juifs, qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur? Il a été troublé, tout Jérusalem avec lui. Il y a eu un trouble qui s'est manifesté quand cet homme, qui était pourtant un roi au sommet de son règne, il était là, et il était tout apeuré face à un petit enfant qui venait de naître. Pourtant, l'histoire nous raconte aussi que c'était vers la fin de son règne. Donc il était là, il avait une certaine stature, il avait une position dans le pays, il était connu. Et pourtant, l'annonce d'un petit bébé a fait trembler cet homme. Pourquoi ? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que la présence de Jésus fait trembler quelqu'un ? Mais tout simplement parce que la personne ne reconnaît pas la place qui revient au Seigneur. Quand je ne reconnais pas que Jésus mérite d'être le roi, alors la simple présence par son esprit ou le contact avec des personnes qui le connaissent et qui l'ont, eux, dans leur cœur, ça me met mal à l'aise. Vous avez déjà rencontré des personnes comme ça. Peut-être vous-même, vous avez connu ce moment où vous étiez pas au clair avec le Seigneur et vous avez été au contact avec des personnes chrétiennes qui, eux, avaient le Seigneur Jésus dans le cœur. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une gêne, il y a eu un malaise. Votre cœur était comme dévoilé. Pourquoi ? Parce qu'il y a la présence du Saint-Esprit qui est là, qui manifeste la sainteté de Jésus. Et quand il y a la sainteté de Jésus qui est manifestée, eh bien, il y a notre péché qui ressort aussi. Quand il y a quelque chose, un drap blanc éclatant, il suffit d'une petite tache, toute petite, mais qui est une tache, pour que ça ressorte. Et c'est exactement ce qui se passe quand on est mis en confrontation avec le Seigneur. Alors cet homme, lui, c'était plus parce que quand il a entendu l'expression « roi des Juifs », il a retenu le mot « roi ». Ah, il y a un concurrent qui se lève. Il y a le descendant légitime de David qui veut prendre ma place. Voilà comment il a compris les choses. Jésus n'était pas au cœur des préoccupations d'Hérode. Jusqu'à présent, Hérode faisait sa vie, il faisait jouer de son pouvoir pour avoir encore plus d'autorité. Et Jésus n'était pas sa priorité. Il était juif, mais il était surtout pour plaire aux juifs, alors qu'il n'était pas du tout d'un point de vue de son cœur. C'était pas en vérité. Il se donnait une apparence. Et il était trop occupé par le pouvoir, par les affaires, par sa carrière, par les manigances, les complots. Vous savez jusqu'à quel point il était sanguinaire, cet homme. Il était tellement suspicieux qu'il croyait que tout le monde complotait autour de lui. Il a tué sa femme, il a tué sa mère, il a tué plusieurs de ses enfants, il a tué plusieurs de ses amis, et il a tué plusieurs des notables juifs. Tout ça parce qu'il, soi-disant, il complotait. Peut-être qu'il y en a qui complotaient vraiment au milieu, mais pas tous. Mais parce qu'il avait simplement le soupçon, il les a mis à mort. Et ça nous montre ce cœur qui était là. À un moment donné, il était obligé de se préoccuper du Seigneur. Et c'est ce que je rappelle, nous sommes tous, à un moment donné, obligés de nous préoccuper du Seigneur. Parce que c'est quelque chose que nous devons faire sur la terre. C'est pas dans le ciel qu'on doit se préoccuper du Seigneur, c'est trop tard dans le ciel. Ce que nous décidons par rapport à la place de Jésus sur la terre, ça va déterminer le sort qui nous est réservé dans le ciel. Voilà ce que nous dit la parole. Et cet homme est passé à côté de cela. Il a été mis au contact de la nouvelle. Il y a le roi des Juifs qui est là. Et il connaissait un petit peu. Il savait à qui il fallait s'adresser. On voit que, alors qu'il n'était pas préoccupé par Jésus au début, par la suite, il a déployé tout son zèle. Il savait que les sacrificateurs, il savait que les chefs religieux, ils avaient des informations concernant la loi. C'est eux qu'il a allé voir, qu'il a rassemblé pour demander. Et il s'informe de manière soigneuse. Il fait venir en secret les mages. On voit celui qui est habitué au complot à agir dans l'ombre. Il s'enquiert soigneusement des informations. Il demande à quel moment ça s'est passé pour savoir à peu près quel âge il a le Seigneur Jésus. Il cherche le quand, il cherche le où. Et puis après, il demande au mage de l'informer, de le tenir au courant, etc. On voit qu'il y a vraiment un désir de chercher le Seigneur dans cet homme, mais son désir, il était mauvais. Le motif, il n'était pas bon. Parce que nous, on sait, on connaît, on a lu l'histoire. Il voulait tuer le Seigneur. C'est dit même au verset, je ne sais plus c'est quel verset, il est à la fin, verset, alors, je ne vais pas le retrouver, c'est pas grave. En tout cas, il est dit qu'il cherchait le petit enfant pour le faire périr, quand ça a été annoncé à Joseph. Hérode cherchait le petit enfant, oui, après, mais il cherchait pour le faire périr. Et on trouve des fois des personnes qui, confrontées à la présence du Seigneur Jésus, ils se renseignent, ils ont beaucoup de zèle, ils cherchent, etc., et ils espèrent recevoir un petit peu. Vous avez vu, même ils se donnent une apparence, moi je veux l'adorer. Et on a vu combien de fois on a été attristé par des personnes qui cherchaient Dieu pour obtenir une bénédiction, pour obtenir quelque chose, et qui, dès qu'ils l'ont obtenu, hop, ils ont laissé tomber. Cet homme, il voulait avoir les bonnes informations, mais c'était dans le but d'assouvir ses passions et ses désirs à lui. Dieu ne se laisse pas trouver par quelqu'un. qui agit dans le secret, qui agit dans l'ombre, qui agit dans la tromperie. Dieu ne se laisse pas trouver par quelqu'un qui fait une apparence, qui joue les hypocrites. Ah oui, je veux adorer le Seigneur. Et puis finalement, son cœur n'était pas du tout dans cet état-là. Jésus n'est pas sur le trône, mais c'est Hérode qui est aux commandes dans sa vie. Il est entreprenant, c'est le roi, il a de l'influence, il aime le pouvoir, il aime l'argent, il a le bras long, il sait à qui s'adresser, mais à un moment donné, les choses, elles lui échappent. Vous avez jamais remarqué que les personnes qui se mettent eux-mêmes aux commandes de leur vie, à un moment donné, les choses, elles nous échappent. Quand on est les maîtres de notre vie, à un moment donné, ça, il y a une catastrophe. Il y a un moment donné, justement, l'apôtre Paul, il prend le bateau et il est dit que ceux qui pilotaient le navire, ils se croyaient maîtres de leur destin. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Il y a eu la tempête. Et là, ils ont dû tout jeter par-dessus bord. La cargaison, ils ont dû jeter même les instruments pour naviguer. Ils ont tout basculé par-dessus bord et ils étaient entre les mains de Dieu. Parce que quelle que soit l'autorité, quel que soit le pouvoir, quelles que soient les choses que nous pouvons posséder, quelle que soit la place que nous avons sur cette terre, celui qui est souverain sur toute situation et sur toute circonstance, c'est le Seigneur Jésus. Et quand les choses nous échappent, qu'est-ce que nous faisons? Quand les choses ont échappé à Hérode, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est entêté à faire les choses comme lui le voulait. Les mages ne sont pas revenus le voir parce qu'ils ont été divinement avertis. Alors il s'est entêté, il a dit on va régler la situation à ma manière. Et il a fait un génocide, vous imaginez, il a tué des enfants de moins de 2 ans. Quelque chose d'horrible qui a pris place à ce moment-là parce que cet homme s'est entêté dans sa mauvaise voie. Est-ce que c'est ça que nous devons faire? Bien sûr que non. Quand les choses nous échappent, quand nous avons fait nos propres décisions, nous n'avons pas mis le Seigneur Jésus à la place qu'il mérite, nous ne devons pas nous entêter. Nous devons nous humilier et dire « Seigneur, Seigneur, fais ce qu'il faut dans ma vie, j'ai besoin de ton aide. » Est-ce que Hérode, il aurait pu être touché par Dieu à ce moment-là? Est-ce qu'il aurait pu dire « Mais oui, finalement, Dieu l'a averti, il y a des choses qui ont échappé à son contrôle. » Lui, il avait prévu que son plan se déroule comme ça, mais Dieu, il a donné une parole par le Saint-Esprit et qui a déjoué tous les plans. Il aurait pu dire « Mais Seigneur, tu es grand. » Je reconnais ta majesté. Le roi Nebuchadnezzar, à un moment donné, il a dit, Seigneur, toi, tu es le roi des rois. Tu es au-dessus de mon règne. Pourtant, il était au top niveau de la hiérarchie de l'époque. Mais il a reconnu la royauté de Jésus, fait de Dieu. Et la question est posée, où c'est que nous mettons le Seigneur? Cet homme, Hérode, a donné cette réponse. Pour moi, le Seigneur Jésus, il est dans la case personnage embarrassant. Il est dans la case gêneur. Est-ce que le Seigneur Jésus est dans cette case dans votre cœur? La case gêneur. Ah, quand j'entends la parole de Dieu, ça me fait quelque chose, j'aime pas ça parce que ça me remet en question, j'aime pas ça. Mais si le Seigneur nous remet en question, c'est pas pour nous mettre plus bas que terre, mais c'est pour nous délivrer de ce qui nous pèse. S'il nous montre le fardeau qu'il y a sur notre cœur, c'est pour nous l'enlever. S'il nous montre le péché qu'il y a dans notre âme, c'est pour nous montrer qu'à la croix, il a versé son sang pour effacer ce péché. Le Seigneur est toujours celui qui veut nous ramener vers l'avant. Il est toujours celui qui veut nous encourager. Il est toujours celui qui... la Bible nous dit qu'il est venu guérir les cœurs brisés. S'il nous montre que notre cœur est brisé, c'est pour justement guérir ces choses. Pourquoi, quand on parle de Dieu le Créateur, ça gêne pas beaucoup de gens? Quand vous parlez avec les gens... Ça les dérange pas quand vous parlez que Dieu a créé le monde. La plupart, ils disent « Oui, je crois qu'il y a quelque chose au-dessus qui a fait tout cela. » Mais quand on parle de Jésus, là, ça dérange. Pourquoi? Parce que quand on parle de Jésus, on parle de la sainteté, de sa conduite. Et ça demande qu'on est pécheur. Quand on parle de Jésus, on parle de sa bonté, sa bienveillance. Cet homme qui ne possédait quasiment rien sur la terre, mais qui faisait seulement du bien à toutes les personnes qu'il rencontrait. Ça nous met nous-mêmes, ça nous confronte à notre égoïsme. On est dans une époque, frères et sœurs, et dans le pays de France en particulier, où il y a un égoïsme ambiant qui est présent, et des fois, il a tendance même à s'introduire dans l'Église, et le Seigneur Jésus est celui qui a manifesté cet amour envers le prochain, et quand nous sommes dans la présence de Jésus, oui, ça nous remet en question. Mais la Bible nous dit que par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Et si nous ouvrons notre cœur à la présence du Saint-Esprit, alors ces choses-là peuvent se passer en nous, nous pouvons manifester, faire des progrès. Attention, il n'est pas dit d'être parfait, c'est une progression dans l'amour. Mais en tout cas, on avance dans ce sens-là d'aimer nos frères et sœurs, d'aimer les personnes qui nous entourent. Quand on est confronté à la puissance du Seigneur Jésus, tous les miracles qu'il a fait, quand on regarde nos propres vies, on se dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on est faible. Mais l'apôtre Paul, il a dit que c'est là, quand je suis faible, que alors je vais me tourner vers le Seigneur, parce que c'est là que je vais être fort, je vais dépendre de mon Dieu. Si le Seigneur Jésus a été abaissé et humilié par le sacrifice à la croix, à cause de nos fautes, alors il doit être élevé. Et il doit recevoir l'hommage qu'il mérite. Le résultat de toutes ces manigances du roi Hérode, c'est que s'il n'a jamais pu mettre la main sur Jésus, il n'a jamais pu le voir, il n'a jamais pu arriver à ses fins. Et vous savez comment il est mort, cet homme? Là, je repars dans l'histoire. L'histoire nous dit qu'il est mort, son corps était dévoré par la gangrène. Quelque chose d'horrible qu'il a vécu dans son propre corps. Son corps, petit à petit, était mangé par la maladie parce que je crois que cet homme s'est endurci dans son cœur. Et combien nous avons intérêt, quand les choses nous échappent, à nous soumettre et à fléchir le genou devant le Créateur et dire « Seigneur, je m'humilie devant toi ». Je passe aux chefs religieux. Vous avez remarqué les chefs religieux dans cette histoire? Il y a une chose qui est particulière, c'est qu'on n'entend quasiment pas parler d'eux. Pourtant, le roi des Juifs, c'est quelque chose qui était annoncé par tout l'Ancien Testament. Les chefs religieux, c'était les spécialistes. Ils connaissaient sur le bout des doigts tous les chapitres de l'Ancien Testament, la Torah, et puis tous les prophètes, les psaumes, tout ça. Ils connaissaient tout ça, tous ces textes. C'était des spécialistes de ces choses. Et pourtant, dans cette histoire, on voit qu'ils apparaissent tout juste pour donner l'information que c'est à Bethléem. Ah oui, leur connaissance a servi, mais elle leur a pas servi à eux. Elle a servi aux mages. Vous avez remarqué, ils n'étaient pas avec les mages quand les mages ont découvert l'étoile. D'accord, les mages, ils étaient assez loin de Jérusalem. Mais ils auraient pu s'intéresser à ces choses. Ils auraient pu lire le magazine Science Mag et voir qu'ils avaient fait cette découverte incroyable. Et ils n'étaient pas là avec Hérode quand il les a convoqués pour avoir des informations sur quand était arrivée la naissance. Ils auraient pu avoir ce désir d'en savoir plus. C'était pas le cas. Ils n'étaient pas avec les mages quand ils sont partis à Bethléem. Est-ce qu'ils auraient pu faire l'effort? Ah, l'effort. 10 kilomètres. Est-ce qu'ils auraient pu faire l'effort d'aller avec les mages pour vérifier si c'était vrai ou pas? Et pourtant, ils n'ont pas fait. Où était le roi des Juifs pour ses chefs religieux? Où était-il? Ben, il n'était pas en tout cas dans leur cœur, ça c'est sûr. Il n'était pas dans leurs attentes, parce que avec le roi Hérode, quand l'annonce a été faite, ils ont été troublés, comme le roi. Le roi, c'était un païen qui faisait semblant d'être chrétien. Mais eux, ils étaient normalement des vrais chrétiens. Mais ils n'étaient pas dans leurs attentes. Ils s'attendaient pas. Et vous savez, qu'est-ce qui a été la cause du trouble? Le trouble avec Hérode, on comprend bien. C'était un roi, donc lui, il a vu le Seigneur Jésus comme un roi, il a eu peur. Mais le trouble des chefs religieux, c'était quoi? Ça vient que eux, ils étaient habitués à expliquer les textes. Ils étaient habitués à faire des débats philosophiques sur l'emplacement d'une virgule dans le texte. Ils étaient habitués à parler de ces choses, de la doctrine, la théologie, tout cela. Ils étaient habitués. Ils étaient habitués à interpréter même les prophéties, à donner un sens qu'ils pensaient qui était bien. Et puis, ils se sont retrouvés confrontés à la réalisation de la prophétie. Ils se sont retrouvés confrontés à la concrétisation de ces choses. Et là, ils ont pris peur parce que eux, autant ils étaient très, très bien dans l'intellectuel que dans la pratique, ils étaient pas bien. Et je prends cet exemple. Un homme qui apprend à piloter. Il lit tous les livres qu'il trouve sur l'aéronautique. Il passe des heures et des heures dans un simulateur. Il va parler avec des pilotes, etc. Le jour où il se retrouve aux commandes d'un vrai avion avec des passagers à l'arrière, il y a un trouble qui est là dans son cœur. Vous comprenez? C'est ça qui s'est passé. C'est qu'ils ont été troublés parce que tout ce dont ils avaient parlé jusqu'à présent, dont ils se targuaient de connaître tellement de choses, c'était en train de se faire. Et ils ont pris peur. Et je suis sûr Alors ça, c'est mon avis, hein, c'est pas doctrinal. Je suis sûr que le jour d'après l'annonce des mages, il y a un scribe qui a dû faire une conférence en disant les 23 raisons pourquoi Jésus ne peut pas être déjà né. Enfin, le Messie ne peut pas être déjà au milieu de nous. Et il a dû sortir toutes sortes d'arguments théologiques, etc. Je suis sûr qu'il y a eu quelque chose comme ça qui s'est passé. Ils ont fait un débat. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Pendant ce temps, les mages sont allés à Bethléem. Et vous comprenez que les religieux, c'est l'image des personnes qui restent dans la connaissance intellectuelle de la parole de Dieu. Est-ce que c'est bien de connaître la parole de Dieu? Bien sûr que c'est bien. La preuve, c'est que c'est eux qui ont donné l'information à Bethléem. Mais ils ont donné l'information et ils n'ont pas suivi. Ils ne sont pas allés voir. Et on peut connaître sur le bout des doigts plein de versets de la Bible tant qu'on ne les vit pas, tant qu'on ne les met pas en pratique. Ça ne sert strictement à rien. Jésus, il a dit lui-même, vous êtes heureux si vous savez ces choses. Donc il y a une joie à savoir, pourvu que vous les pratiquiez. À quoi ça sert de connaître la parole de Dieu si ça ne me pousse pas en avant pour chercher le Seigneur, si ça ne me donne pas, si ça ne me communique pas ce zèle, cette passion pour chercher Dieu, avoir cette communion avec lui, le connaître davantage et que ma vie soit transformée. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. C'est facile de lire la Bible et d'être d'accord même avec les vérités. Quand vous lisez la Bible, vous voyez qu'il y a des belles choses quand même. Et même des incroyants vous diront qu'il y a des paroles qui sont magnifiques. Aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est des paroles qui sont quand même belles. Elles sont pas évidentes à réaliser, mais elles sont belles. Mais on peut passer notre vie à se délecter de la parole de Dieu dans son concept et ne pas la vivre. Je vous donne un exemple simple. Est-ce que c'est vrai que mentir, c'est mal? Bien sûr. Est-ce que c'est vrai que voler, c'est mal? Alors, on est tous d'accord, bien sûr, c'est horrible. Et puis, la situation se présente, par exemple, je donne cet exemple-là, c'est déjà arrivé, je pense à plusieurs. La caissière, elle vous rend la monnaie, et au lieu de mettre un billet de 10, elle met un billet de 50. Ça se ressemble un peu. Bon, ça arrive pas tous les jours. Et puis, alors, on met ça dans la poche, on plie, on fait pas attention. Arrivé dans la voiture ou peu importe à l'endroit, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on devait recevoir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lève les bras et dit « Seigneur, merci parce que tu as pourvu, tu es grand Seigneur ?» On peut faire ça, mais voler, est-ce que c'est pas mal? Ah, mais c'est elle qui me l'a donné. Et on peut trouver, à ce moment-là, on est très intelligent pour trouver toutes sortes d'excuses. Mais est-ce que cet argent nous appartient? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je suis sûr que oui, d'aller rendre la monnaie à la personne. Vous savez, quand on fait ça, le cœur des gens, combien il peut être touché? Pourquoi? Parce que c'est l'image de Jésus-Christ que nous donnons aux personnes qui sont autour de nous. Et ils se rendent compte qu'on n'est pas attaché à l'argent. Et que si ça s'est passé, c'est parce qu'elle a fait une erreur, c'est pas grave. On lui rend, et c'est réglé. Et puis, on peut lui dire, mais vous savez, madame, moi je suis chrétien, je connais le Seigneur et je respecte sa parole. Et c'est un témoignage qu'on peut rendre de bonne odeur. Et des fois, on est là, on trouve des excuses pour pas accomplir la parole de Dieu. Dans les petits détails de notre vie. Vous savez, le problème des religieux, c'est que Jésus, il était dans leur quotient intellectuel et il n'était pas dans leur quotidien. Le Seigneur Jésus doit être dans notre quotidien. Dans les petites choses. Vous savez, le plus grand témoignage que l'on peut faire, c'est pas de faire venir un évangéliste qui va parler de la croix en nous faisant pleurer. Ça, c'est très bien, si on peut le faire, tant mieux. Mais c'est pas ça que le Seigneur nous demande à tous. Il nous demande dans le quotidien de notre vie de mettre en pratique sa parole, d'obéir. Et parce que nous le ferons, il y aura la lumière de Christ qui va rejaillir sur les personnes qui nous entourent. En tout cas, les religieux, eux, ils faisaient pas ça. Eux, ils avaient tout dans la tête, mais ils ne faisaient rien dans la pratique. Heureusement, il y a les mages qui sont là, qui nous montrent cette bonne image de ce que nous devons faire, de l'endroit où nous devons mettre le Seigneur dans notre vie. Les mages, alors ce ne sont pas des magiciens, on entend toutes sortes de choses, surtout dans les périodes de Noël, et toutes sortes de traditions qui nous font dire toutes sortes de choses. Bon, là, on a lu le texte de la parole de Dieu qui nous parle des mages. Vous voyez qu'il est très succinct. On ne sait pas le nombre qu'ils sont. On ne sait pas si ce sont des rois. On ne connaît pas leurs prénoms. Tout ça, ça s'est rajouté par la suite. On ne sait pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Peu importe. Nous, on est intéressés par ce que dit la Bible. C'était des mages. Et les mages, c'était des personnes qui étaient des sages, qui enseignaient la science, qui étudiaient le ciel, mais qui faisaient, qui n'étaient pas astrologues, qui étaient astronomes. C'est-à-dire que c'était vraiment la science. Ils étudiaient les étoiles, etc. Et ils ont découvert par une conjonction d'étoiles dans le ciel qu'il y a un événement qui allait se passer. Un événement qui concernait le peuple juif. Et qu'est-ce qui se passe pour ces personnes? On se rend compte que Jésus, il est à la bonne place parce qu'il est aux commandes de leur vie. La preuve, il se laisse diriger seulement par une petite étoile. Alors on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils se sont laissés conduire. L'étoile est apparu et leur a donné une direction et ils ont embrayé le pas, ils ont commencé à avancer. Vous avez remarqué la première chose qu'ils font, c'est qu'ils s'arrêtent pour contempler ça. Est-ce que l'histoire de Jésus-Christ mort à la croix pour le péché de l'humanité, ça, c'est quelque chose qui vous interpelle, qui vous fait vous arrêter, qui vous fait réfléchir, qui vous fait vous poser cette question, mais où est le roi des Juifs dans ma propre vie? Où c'est qu'il est? Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle et qui vous touche? Vous savez que pour nous, l'étoile qui brille dans le ciel, c'est le Saint-Esprit que Dieu fait briller sur la terre au travers de toutes sortes de moyens pour nous interpeller. Par exemple, ce matin, la parole qui est annoncée, mais comme je le disais tout à l'heure, toutes les personnes qui manifestent la vie de Christ en eux, c'est comme une étoile qui brille et qui attire les hommes qui sont autour. Est-ce qu'ils vont se laisser arrêter? Est-ce qu'ils vont se laisser interpeller? Est-ce qu'ils vont prendre un instant pour réfléchir? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces personnes? Ils ont tout quitté. On ne sait pas s'ils avaient des familles. On ne sait pas s'ils avaient quelle position sociale, s'ils étaient très riches ou pas, etc. On ne sait pas. Ils ont quitté la famille, le confort, la tranquillité, l'abondance. Et ils ont passé au travers du désert un voyage de plusieurs mois pour se rendre jusqu'à Jérusalem. Quelle image ça nous donne? Souvent, nous, on est préoccupés par tout ce que je viens de dire, famille, maison, confort. Est-ce que c'est bien de s'en occuper? Bien sûr que c'est bien. Mais quand on s'en occupe plus que le Christ, c'est pas bien. C'est ce que nous dit la Bible. Et vous allez voir que quand vous vous occupez de Jésus en premier dans votre vie, alors vous allez tellement mieux vous occuper de tout le reste. Ça va découler. Alors que des fois, on est là, on se préoccupe. Ah oui, ma famille, il faut que je prenne du temps, etc. Alors que je vais à l'église, je me remplis de l'amour de Dieu et je vais rentrer à la maison, je vais aimer ma famille, je vais prendre soin d'elle et je vais penser, anticiper les besoins, etc. Mais des fois, on met les choses à l'envers. Ces mages sont là pour nous montrer ce que nous devons faire. Vous savez qu'il y a ce verset qui est donné. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez comment? De tout votre cœur. On ne peut pas chercher le Seigneur à moitié et le trouver. Hérode, il a commencé à chercher le Seigneur à moitié pour de mauvaises raisons, il l'a pas trouvé. Les mages, ils ont commencé à chercher le Seigneur dans la loi, ils l'ont trouvé à moitié, mais finalement, ils l'ont pas trouvé en réalité. Les seuls qui l'ont trouvé dans cette histoire, ce sont les mages qui sont allés jusqu'à Jérusalem et puis qui ont pris les informations qu'ils ont trouvées, ils sont allés jusqu'à Bethléem et ils sont entrés dans la présence du Seigneur Jésus. Ça, c'était les seuls, parce qu'ils l'ont cherché de tout leur cœur. Ils ont été prêts à renoncer à ces choses qui les retenaient en arrière. Malheureusement, on est dans un monde, et dans l'église je parle, ou dans les églises, je parle pas de moi ça en particulier, mais on voit dans les églises tellement de gens qui sont encore tenus par des choses, qui sont encore reliés au monde. Il y a encore un amour du monde qui est là. Mais si, frères et sœurs, vous avez cet amour pour le monde encore dans votre cœur, vous pouvez pas chercher cette plénitude de la présence du Seigneur Jésus. Il faut qu'il y ait un choix de quitter tout cela. Il faut qu'il y ait un choix. Oui, ça va passer par un temps de désert. Oui, ça va passer par un temps de trouble. Mais au bout, c'est le Seigneur Jésus et sa présence et sa bénédiction qui est là. Je crois que ces hommes, quand ils ont rencontré Jésus-Christ, toute leur vie a été totalement transformée par la suite. Il y a eu une différence dans leur vie quand ils sont revenus chez eux. Les personnes ne les ont pas reconnus. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé le Christ. Combien c'est merveilleux quand on peut dire cette même chose. Jésus est au centre de leurs préoccupations. Ils se laissent enseigner par l'étoile, par les indications qu'elle leur donne. Les mages ont l'intelligence des temps. Vous savez combien c'est important d'avoir l'intelligence des temps. Est-ce que vous êtes attentif au temps dans lequel vous vivez? Est-ce que vous considérez tout ce qui se passe en ce moment? Ou vous êtes là, oh là là, il y a encore ceci. C'est sûr, quand on lit les informations, quand on regarde le journal, on n'a qu'une envie à la fin, c'est de fermer et de pleurer. Et de se dire, bon, mais on est fichu, on va jamais y arriver. Mais ça, c'est quand on connaît pas le Seigneur. Parce que le Seigneur, ça fait des milliers d'années qu'il nous avait prévenu que ces choses allaient se passer. Et quand on a l'intelligence des temps, on comprend que tout ce qui se passe, ça n'est seulement qu'un avertissement en nous disant, levez la tête, car le temps est proche, le Seigneur est à la porte. Il arrive. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons l'intelligence des temps pour dire, oui Seigneur, je me rends compte que tout ce qui se passe, la laïcité qui est totalement déformée, les gens qui chassent Dieu de partout. Encore cette semaine, j'entendais quelqu'un qui disait, ah, on devrait brûler toutes les mosquées et puis au passage, on brûle toutes les églises, toutes les religions. On s'en débarrasse. J'imaginais un instant ce qui se passerait si on faisait ça. Le chaos que ça serait par la suite. Si déjà quand ça se passe beaucoup, on essaie de chasser Dieu de toute notre société, imaginez ce qui allait se passer. C'est ce qui va se passer d'ailleurs à la grande tribulation. Hein. Et combien ça sera quelque chose de terrible. On a tout intérêt à être prêt, à être enlevé avec le Seigneur auparavant, pour être avec lui. Et ça va passer par cette intelligence des temps. Oui, il y a ça qui se passe. Mais Seigneur, je prépare mon cœur. Est-ce que nous sommes attentifs aux indications de la Bible qui est pour nous, qui est pour aujourd'hui? Quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons que l'homme sans Dieu, il ne se dévoue qu'au mal. Bien sûr, il y a des moments où il arrive à faire du bien, mais ça dure jamais trop longtemps. Bien sûr, il y a des moments où il y a un petit peu de paix, mais la paix, elle dure pas longtemps. Le traité de paix, il est vite rompu. Les meilleurs projets de règlement de conflits, comme c'est en train de se faire actuellement pour la Syrie, vous savez comment ça va se terminer, comme ça s'est toujours terminé. Voilà pourquoi nous devons être attentifs à la parole de Dieu. Le seul moyen pour l'homme d'être libéré du mal, c'est la croix de Jésus. C'est la repentance. C'est le pardon de Dieu qui efface toutes ces choses et qui nous permet de vivre dans la liberté. Et vous avez remarqué aussi quelque chose? C'est que pour pouvoir étudier le ciel, il fallait qu'il s'arrête la nuit. La journée, il ne pouvait pas voir les étoiles. Mais la nuit, il devait prendre ce temps pour étudier à quelle position se trouvait l'étoile. Est-ce que vous prenez du temps? Est-ce que vous consacrez du temps au Seigneur? La nuit, en soirée, ou le matin très tôt, peu importe. Ce moment en particulier où il y a beaucoup moins de bruit autour. La journée, on est dans nos occupations, il y a peut-être la famille, les enfants qui sont là, il faut... Mais la nuit, ce temps où on est seul à seul avec Dieu. Est-ce que vous consacrez ce temps? Après, vous pouvez dire, ah, oh, mais je vois pas de résultat dans ma vie. Oui, mais est-ce que tu investis avec le Seigneur? Est-ce que tu lui investis ton temps? Est-ce que tu lui consacres ton temps? La question qu'il faut nous poser, frères et sœurs, c'est celle-ci. Où est le roi des Juifs? Pour les mages, c'était clair. Le roi des Juifs était au centre de leurs préoccupations. Il était aux commandes de leur vie. C'est lui qui les dirigeait. Et il était au centre de leur adoration aussi. Quand ils sont arrivés, ils se sont prosternés. Ils l'ont adoré. Ils ont ouvert leur trésor. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Est-ce que vous êtes des personnes qui aiment louer le Seigneur? Louer le Seigneur, c'est au travers des chants que nous faisons le dimanche matin. Mais heureusement, c'est pas que ça. C'est une vie entière qui obéisse à Dieu. Adorer Dieu en esprit et en vérité. À Jérusalem, il y avait le palais des rois. Il y avait Hérode qui était là. Jésus, il n'était pas dans le palais. Jésus, il n'est pas dans les pouvoirs. Et Jésus, il n'est pas dans les richesses. Jésus, il n'est pas dans cette soif de posséder, cette soif de satisfaire nos désirs. Quelqu'un qui est dans cet état d'esprit ne va pas trouver le Seigneur. Vous avez remarqué qu'à Jérusalem, Jésus n'était pas non plus dans le temple. Il aurait pu habiter dans le temple, le Seigneur. Après tout, c'était sa maison. Qui d'autre que lui aurait pu habiter dans le temple? Et pourtant, il habitait dans une simple maison. Pour nous montrer que là où le Seigneur se trouve, c'est dans nos maisons, mais des maisons qui choisissent d'adorer le Seigneur, de lui rendre la place qui lui revient. Est-ce que Jésus est dans notre cœur? Ou est-ce que Jésus est au dehors? Vous savez, même dans une église, le Seigneur, il se retrouvait à la porte. Et il est en train de taper. C'est fou, ça. Peut-être c'est une église qui était en train de faire un culte magnifique en apparence, et puis on entendait. Et le Seigneur se retrouve à la porte. Vous imaginez ? Combien nous devons prêter attention à ces choses et dire, Seigneur, moi je veux t'accueillir dans mon cœur. Je veux que dans mon église, Seigneur, tu sois au centre de nos préoccupations, que tu sois le cœur de nos louanges. Seigneur, je veux que tu aies la place qui te revient dans ma propre âme. Et je finis avec cette pensée. Quelqu'un, un prédicateur, un jour a dit ceci. Je crois que j'ai déjà parlé de ces choses. Dans notre cœur, il y a deux places. Deux places. Il y a un trône et il y a une croix. Si mon moi, il est sur le trône, Jésus, il est sur la croix. Si Jésus, il est sur le trône, c'est mon moi qui est sur la croix. Vous voyez que l'image, elle est simple. Mais posons-nous cette question. On va incliner nos fronts. Où est le roi des Juifs ?